Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Voilà, 20h17 avec un petit peu de retard ce soir. Le club de la presse numérique, on parle de la nouvelle bataille Chine-États-Unis autour de Huawei vers une guerre froide technologique. Alors depuis plusieurs semaines, on en a déjà parlé dans cette émission, la tension est montée d'un cran entre la Chine et les États-Unis. Au centre du conflit, Huawei, le géant chinois des télécommunications, que Washington accuse d'être tout simplement trop proche, je cite, du gouvernement chinois pour être fiable. C'est ce qu'a déclaré Patrick Shanahan, qui est à la tête du Pentagone. Alors le 15 mai dernier, Donald Trump avait mis le feu aux poudres en signant un décret anti-Huawei. Quelques jours plus tard, Google décidait de suspendre ses relations commerciales également avec le géant chinois. Pékin a répondu par la voix de son ministre de la Défense. Si les États-Unis veulent l'affrontement, nous sommes prêts. Assistons-nous à un simple bras de fer commercial ou sommes-nous au début, à la veille de ce que de nombreux médias appellent une nouvelle guerre froide technologique? Pour en débattre, je reçois Sandrine Cassini, journaliste au Monde, Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Emmanuel, peut-être rappeler d'abord les grandes étapes de ce conflit et où nous en sommes aujourd'hui.
Alors c'est un conflit qui remonte quasiment sous l'administration Obama, puisque déjà à l'époque de la 4G, Huawei n'avait pas pu candidater auprès des opérateurs télécoms pour déployer la 4G sur le marché américain, ce qui avait fait plutôt les affaires à l'époque du franco-américain Alcatel-Lucent, qui avait raflé plein de parts de marché sur le territoire américain, ce qui l'avait pour un temps en tout cas renforcé. Aujourd'hui, ce qu'on a vu à partir de 2018 et avec l'administration Trump, c'est que la pression qui était mise sur Huawei au niveau des équipements de réseau, donc les équipements de réseau télécom, que ça soit des routeurs, de cœurs de réseau, donc ce qui permet de faire transiter tout ce qui touche aux données qui sont liées à l'IP, donc à Internet, et tout ce qui sont les antennes aussi, les antennes pour la 4G, donc pour le réseau mobile et la future 5G. Tout ça aujourd'hui prend une nouvelle ampleur puisque l'administration Trump s'intéresse maintenant aux terminaux Huawei, qui sont devenus aussi extrêmement puissants. C'est la deuxième marque au niveau mondial, juste derrière Samsung. Et l'idée, c'était de dire que plusieurs agences de renseignement estiment que le fait d'équiper de l'administration américaine de technologies chinoises, notamment Huawei, mais aussi ZTE, dont on parle beaucoup moins aujourd'hui, c'est faire porter un problème de sécurité nationale à toute l'administration américaine et à tous ceux qui travaillent avec le gouvernement américain. Donc dès février 2018, ils ont demandé à ce que les technologies chinoises soient interdites par tous les gens qui travaillent directement ou indirectement avec le gouvernement. Donc ça concernait le réseau, les infrastructures, mais aussi les terminaux. Donc c'est là où on voit une gradation et une augmentation de la pression sur Huawei. Et puis en 2018, donc en août, quelques mois plus tard, cette fois le gouvernement a passé un décret demandant à ce que Huawei et ZTE ne soient plus du tout admis par toutes les entreprises travaillant avec elles. Et puis en décembre, donc de la même année, c'était Meng Wanzhou, donc la CFO, donc la directrice financière de Huawei et la fille du fondateur, qui cette fois était arrêtée au Canada à la demande des États-Unis pour avoir vendu des équipements à l'Iran, alors même que ce pays est sous embargo américain et donc sous sanction américaine, et que du coup Huawei aurait outrepassé la loi américaine sur l'embargo iranien. Donc ça, c'était une deuxième étape, donc un autre angle d'attaque qui n'est plus la sécurité nationale mais simplement les liens commerciaux entre Huawei et l'Iran. Et puis là, en 7 mai, effectivement, c'est un nouveau décret présidentiel qui cette fois demande à ce que toutes les entreprises américaines cessent de travailler avec Huawei. Donc ça touche effectivement Google, comme vous le rappeliez, mais également Qualcomm qui fournit les modems par exemple, qui font fonctionner les téléphones, également Intel, et puis même Arm. Donc ça, c'est une entreprise britannique qui a été rachetée par SoftBank, donc un japonais, mais eux-mêmes ne veulent pas prendre le risque, puisqu'ils ont des brevets qui sont déposés aux États-Unis, d'être sous sanctions américaines, et donc ont décidé de ne plus équiper non plus tous les terminaux de Huawei.
Sandrine Cassini, pourquoi Donald Trump s'attaque-t-il à Huawei? Quels sont les enjeux stratégiques au cœur de ce conflit?
Écoutez, le fait de s'attaquer comme ça à Huawei, c'est pas vraiment clair. Eux avancent des raisons de protection de la sécurité nationale. D'abord, Huawei sont un peu espionnés. Donc ça, c'est vraiment le premier risque mis en avant par l'administration. Mais au début, on pensait que c'était surtout pour peser dans les négociations commerciales entre Washington et Pékin. Donc il y a beaucoup de choses en jeu. Il y a le transfert de des technologies en Chine, qui est une exigence de toutes les entreprises qui viennent. Il y a les droits de douane que les États-Unis ont mis en place sur un tas de produits chinois. Donc cette interdiction s'inscrirait dans ce cadre-là. Mais plus largement, on se dit, beaucoup d'économistes aujourd'hui se disent que Donald Trump, quand il interdit une entreprise comme Huawei, ça s'inscrit dans un cadre plus large. C'est qu'il croit, en tout cas son administration croit, Qu'aujourd'hui l'économie ne peut plus croître, en tout cas que l'économie est en jeu à somme nulle et que pour gagner des parts de marché, il y a un seul moyen, c'est de détruire la Chine, de détruire les autres. Et c'est des discours que l'on retrouve par exemple aujourd'hui chez Steve Bannon quand il dit, qui était l'ancien conseiller de Trump, quand il dit Huawei c'est une entreprise à abattre. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus large que défend Donald Trump aujourd'hui.
En bannissant Huawei, les États-Unis ne prennent-ils pas le risque de voir s'accélérer ce qu'on pourrait appeler une forme d'autonomisation de l'indépendance technologique de la Chine, qui est déjà pour partie vraie? Emmanuel Paquette, Sandrine Cassini.
Écoutez, c'est en tout cas ce que les Chinois disent. Huawei le dit, évidemment, eux, ils sont là-dedans. Ils disent, nous, on peut très bien le faire tout seul, on va tout remplacer.
On a déjà notre Facebook, notre
Twitter.
Exactement,
et c'est vrai que sur une partie, pour un tas de technologies, ils ont prouvé à quel point ils étaient bons. Après, c'est une question de vitesse.
Là, c'est pas le cas, non ? Ouais, c'est ça.
Comment ?
Là, il leur manque des choses, quand même.
Oui, après, c'est une question de vitesse, et c'est surtout oublier que la technologie, c'est quelque chose de très mondialisé, où toutes les entreprises sont interconnectées entre elles. Donc je pense que c'est pas si simple pour la Chine de dépasser les États-Unis du tout. Après, est-ce que la Chine peut se passer de Huawei ? Ça, c'est des entreprises chinoises. Ça, c'est aussi une question.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors d'une part, il faut voir encore que Huawei fait plus de la moitié de son chiffre d'affaires sur son propre territoire, donc la Chine. Et le deuxième territoire derrière, c'est l'Europe, avec à peu près 28% de chiffre d'affaires, 29%. Et les États-Unis se situent très très loin derrière, avec à peine 6%. Donc en fait, l'enjeu, c'est vraiment l'Europe. Est-ce que l'Europe va bannir à son tour Huawei ? Et pas du tout de savoir si la Chine bannit Huawei, puisque de fait, Huawei ne fait quasiment plus d'activité commerciale là-bas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, comme le disait Sandrine, se passer des technologies américaines, ou même des technologies mondiales, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des sociétés comme STMicroelectronics qui fournit encore des processeurs ou des puces aux entreprises chinoises, dont Huawei. Il y a aussi Infineon, qui est une boîte allemande, Arm, dont je parlais précédemment, qui est une boîte anglaise. Donc aujourd'hui, Huawei a sa propre structure qui s'appelle iSilicon, dans laquelle ils arrivent à produire des puces. Ils commencent à produire leurs propres puces et ils sont en train de développer leur propre système d'exploitation qui s'appellerait ARC, donc ARK. Donc il y a des brevets qui ont été déposés là-dessus, mais un système d'exploitation aujourd'hui, ça sert strictement à rien. En réalité, ce qui intéresse les utilisateurs, c'est YouTube, c'est Google Maps, c'est des applications qu'aujourd'hui la Chine produit en interne pour son territoire, mais n'a jamais réussi à exporter. Et donc les Européens sont demandeurs de YouTube, de Google, de Gmail, mais pas encore d'applications chinoises. Donc ça va être le grand problème de la Chine, c'est de pouvoir créer non seulement de la technologie et de l'électronique chinoise, mais également des services chinois qui parlent aux Européens.
Quelle est la position, justement, vous l'évoquiez, de l'Europe et de la France dans ce conflit, Emmanuel Paquette, Zoé Sfez, Sandrine Cassini?
Écoutez, la position de la France, elle est, je dirais, ambiguë, comme visiblement on sait le faire assez souvent. On a passé une nouvelle législation qui est un petit peu anti-Huawei, évidemment, on ne le dit pas comme ça, mais qui obligerait les opérateurs télécoms à faire valider les équipements qu'ils utilisent pour leur réseau. Donc il ne s'agit pas de bannir Huawei, mais il s'agit de le mettre sous contrôle. C'est là où je dis qu'on est un petit peu hypocrite. Là, les opérateurs télécoms, eux, ne sont pas du tout pour cette législation. D'une part, parce qu'ils ont envie d'utiliser du Huawei. Stéphane Richard l'avait dit, encore, c'est le patron d'Orange, l'avait dit. Nous, on est capable de mettre en garde, on est capable de bien vérifier que ces technologies offrent la sécurité nécessaire. Et ils n'ont pas du tout envie de se faire contrôler tous leurs équipements par l'administration, parce que ça revient un petit peu à mettre en place un système soviétique qui pourrait ralentir fortement le développement des réseaux. Donc on est un peu pris entre le marteau et l'enclume dans cette guerre, d'autant que nous, contrairement à la Chine ou aux États-Unis, on possède beaucoup moins de technologies que l'on fabrique nous-mêmes.
Une remarque, parce que là on va parler avec Emmanuel Paquette qui va faire une conclusion sur l'Europe politique, mais quid des utilisateurs de Huawei en Europe, dont malheureusement, je ne dois pas le dire mais je fais partie, vu que Android, qui est un système américain mais qui est sur tous les téléphones, arrête sa collaboration avec Huawei, théoriquement les téléphones d'aujourd'hui, si c'est vrai, les téléphones d'aujourd'hui ne sont pas censés subir ça, mais il n'y aura plus de mise à jour par exemple. Donc c'est aussi, on va dire, une préoccupation très concrète pour les consommateurs.
Emmanuel Paquette.
L'administration Trump a donné 90 jours en plus justement à Huawei pour justement voir comment ils pouvaient s'arranger avec Google et Android. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait est que les utilisateurs d'Android sur les téléphones actuels ont relativement peu de choses à craindre, si ce n'est les mises à jour futures. Mais sur ceux qui vont acheter des Android actuellement, il y a une forte incertitude de savoir comment va fonctionner leur terminal. Et donc, on voit déjà que Foxconn, qui est le fournisseur de Huawei pour les téléphones, vient de diminuer sa production. Il y a eu une dépêche qui vient de tomber là récemment. Donc, Huawei sait très bien qu'il y a un risque et que les consommateurs ne vont pas prendre le risque et vont plutôt se tourner vers un Samsung, notamment puisque c'est un Coréen du Sud, ou d'autres marques, peut-être même d'autres marques chinoises comme Xiaomi, qui ne font pas partie de la liste noire des Américains. Donc oui, il y a un vrai risque pour Huawei.
Non, mais là, par exemple, en France, les ventes ces dernières semaines ont déjà baissé de 30%, autant chez les opérateurs télécoms qu'en ligne. Donc les utilisateurs...
Conséquences directes.
Exactement, ont vraiment compris qu'il y avait un problème et prennent déjà les devants.
Au fond, Donald Trump et le gouvernement américain ont appelé les autres pays du monde à suivre leur exemple. Ils veulent faire de ce conflit un enjeu sécuritaire, mais aussi idéologique. Vous avez cité le nom de Steve Bannon. Au fond, il y aurait désormais, on pourrait presque dire, quatre internets. Un internet ouvert, celui de la Silicon Valley. Un internet marchand, celui de Washington. Un internet autoritaire, celui de la Chine. Et puis enfin, un internet, alors comment le qualifier, disons un peu bourgeois et régulé, celui de l'Europe.
C'est nous.
Voilà, on verra comment tout ça va évoluer. On en reparlera dans cette émission régulièrement. On en reste là pour ce soir avec un petit peu de retard. Merci infiniment Emmanuel Paquet de l'Express, Sandrine Cassini du Monde. Merci à vous, Zoé Sfez. La semaine prochaine, on parlera dans cette émission des Rencontres d'Arles qui fêtent elles aussi leurs 50 ans et l'état du marché et des festivals consacrés à la photo. Ce sera notre sujet dans un instant. Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.